D'abord à Historia, steak, blé d'Inde, patate, qui retrace l'histoire hein, de la gastronomie québécoise à travers plusieurs moments clés et charnières. Et c'est sûr que quand on pense à la cuisine québécoise de façon culinaire, ça passe également par notre culture aussi. On peut y voir un lien direct avec des événements qui se sont passés de façon contemporaine au 20e siècle. Et je suis très content de parler avec Priscilla Plamondon, la lancée derrière la série, bien sûr, mais aussi le livre, elle qui est journaliste et auteure avec nous. Bonjour Priscilla.
Bonjour Alex.
Merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que pour passer justement de la série à succès de Historia pour le livre, est-ce qu'on a dû revoir un peu pour trouver le contenu, le ton? Est-ce que ça a été un défi de passer de la série au penchant du livre?
Ben, écoute, à la base, moi j'ai fait un mémoire de maîtrise sur l'histoire de la gastronomie québécoise puis sur l'émergence de notre identité culinaire. Puis ça m'a pris 9 ans faire ces recherches-là. Et c'est ça qui a donné naissance à la série Steak, blé d'Inde, patate, donc qu'on a formulé autrement parce qu'on dédie chaque épisode à une thématique, par exemple nos traditions culinaires du temps des fêtes, la danse sucrée des Québécois, c'est ça qui s'en vient pour la deuxième saison cet automne. Mais faire un livre, ben là, c'était simplement de passer d'un format académique à un ouvrage grand public avec plein d'images d'archives, plein d'anecdotes oui. sur tous les aliments emblématiques puis toutes nos traditions culinaires, finalement.
Mais j'ai beaucoup aimé autant la série que le livre, puis on peut voir quand même de façon contemporaine, pour se réapproprier notre cuisine, des moments charnières. On n'a qu'à penser dans les années 60. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un avant-après Expo 67?
Ah, définitivement, parce que ça a longtemps été la cuisine québécoise, une cuisine familiale qui avait pas le droit de citer là, sur les menus des grands restaurants. Donc, il y avait seulement la gastronomie française dans les restaurants UP, puis pour les portefeuilles bien garnis, on va se le dire, avant Expo 67. Mais l'Expo, ça a comme fait une étincelle, en fait, parce que là, tous les pays étaient représentés, puis on se demandait, mais c'est quoi, nous, notre cuisine nationale? C'est quoi, nous, nos plats identitaires? Donc, en côtoyant les cuisines des autres, ça nous a amené à définir notre cuisine et à se dire, ben là, on va arrêter de faire des copier-coller de la gastronomie française, puis on va vraiment définir notre identité culinaire, puis avoir une gastronomie à nous. Là, ben, il y a l'IPHQ à Montréal oui. qui a été créé. Après ça, il y a des chefs québécois qui ont été formés. Puis dans les années 80-90, ben, on peut dire qu'il y a eu une révolution finalement de l'assiette québécoise. Et aujourd'hui, notre gastronomie, on peut en être fier, elle existe. Et les chefs québécois se sont émancipés finalement. Là, oui. Ça a été un peu le vivre la cuisine québécoise libre dans les cuisines, parce que c'est ce que De Gaulle avait dit à l'Expo,
ben hein, oui.
la veille de son passage à l'Expo 67, il avait dit vive le Québec libre.
Ça fait que quelque part, on a le Québec libre à quelque part maintenant, là, pour les souverainistes. Là.
Ben, en fait, c'est que les chefs, qu'ils soient souverainistes ou fédéralistes, peu importe, il y a eu un sentiment vraiment nationaliste de se dire, hey, on est capable, nous autres aussi, de faire de l'art culinaire
ben oui.
québécois avec des produits québécois. Et depuis ce temps-là, il y a eu une quête pour approfondir notre garde-manger dans les forêts, dans le fleuve, dans nos lacs, nos rivières, avec des producteurs aussi à travers les régions du Québec.
La mycologie qui est devenue très hot aussi, tu sais, il y a plein de mouvements aussi comme ceux-là.
Oui, puis c'est ça qu'on se rend compte aussi, puis c'est bien illustré dans le livre, ce que nos arrière-grand-mères faisaient, là, de faire des conserves, de faire le potager, d'élever des poules pour avoir
la
des
boucherie.
Frais. Tout ça est revenu en vogue, on a eu un retour aux sources.
Terroir.
Ça fait partie de nos racines, ça fait partie de notre histoire, puis ce patrimoine-là, on peut en être fier.
Puis c'est assez nouveau parce que, et je dis ça parce que tu l'as évoqué, mais un Martin Picard, par exemple, qui a été tellement fort pour ramener depuis une vingtaine, trentaine d'années, peut-être un peu plus, mais le terroir québécois, tout ce qu'on dit comme terroir québécois.
Ben c'est parce qu'avant ça, les plats traditionnels, les tenants du bien manger levaient le nez là-dessus. Hein, puis il y a eu des critiques gastronomiques françaises qui disaient qu'on avait une cuisine de bûcheron, puis que ça valait pas la peine de visiter le Québec puis de manger nos plats. Mais Martin Picard, il a finalement remis ce folklore-là au goût du jour, puis il nous a dit, OK la gang, on peut être fiers de notre patrimoine, On peut mettre du foie gras sur une poutine, on peut rendre une cuisine de cabane à sucre gastronomique, puis on peut créer avec du sirop d'érable qui nous coule dans les veines depuis la Nouvelle-France, parce que ça, c'est grâce aux Autochtones.
Aux Autochtones, ben oui.
Vers la fève d'érable, puis aujourd'hui, ben c'est vraiment un emblème pour le Québec. Donc, oui, c'est grâce au travail des chefs, beaucoup, comme Martin Picard, comme Normand Laprise, comme Daniel Vézina, comme Anne Desjardins.
Colombe Saint-Pierre,
plus récemment, qui travaille fort pour démocratiser tous les produits du fleuve Saint-Laurent auxquels on n'a pas accès. Hein. C'est dur d'avoir accès à des fruits de mer et des poissons de chez nous. Donc.
Et parlant de poissons, parce qu'on est à Sorel-Tracy, c'est sûr, puis tu l'évoques dans le livre, la giblotte de chez nous aussi.
Oh oui, la giblotte. Ben écoute, moi je viens de Saint-Guillaume, petit village qui est quand même loin de Sorel, et puis j'en mange la giblotte depuis mon enfance. Mais pour bien des Québécois, c'est nébuleux l'histoire de la giblotte. Donc dans le livre, on retrouve l'histoire de la giblotte. C'est une longue tradition, puis c'est vraiment une fierté locale. Et il faut en manger une fois dans sa vie pour savoir c'est quoi. Le problème, des fois, c'est le nom qui semble peu attrayant. Hein? Ça a l'air d'être un mélange douteux. Mais non, quand on sait c'est quoi, quand on en mange depuis longtemps, c'est vraiment un plaisir coupable. Et puis ça, c'est évoqué parce que c'est une tradition dans votre coin de pays.
Ben oui.
Puis avec le chenal du moine, le survenant, Berthe Beauchemin, donc tout ça, c'est évoqué parce que ça fait partie de notre histoire, puis ça fait partie de notre patrimoine. C'est des petites perles comme ça, locales, qui composent toute l'identité de la cuisine québécoise, finalement.
Et c'est d'ailleurs ces perles-là que vous allez découvrir dans le livre de ce qu'on a jasé ces derniers instants. Allez le chercher dans toutes les librairies, steak, blédin, de patates, vive la cuisine québécoise libre de Priscilla Plamondon-Lalancette. Saison 2 sur Historia aussi, le 17 octobre. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
C'était vraiment un plaisir, Alex. Bonne journée.
Un plaisir réciproque. La musique de Stats et Laisse-moi à CJSO 107 Full Keb.